Avant-propos. Avant de commencer la narration de mon voyage, je dois faire connaître au lecteur la position dans laquelle je me trouvais lorsque je l'entrepris et les motifs qui me déterminèrent. Le placer à mon point de vue, afin de l'associer à mes pensées et à mes impressions. Ma mère est française. Pendant l'émigration, elle épousa en Espagne un Péruvien. Des obstacles s'opposant à leur union, ils se marièrent clandestinement et ce fut un prêtre français émigré qui fit la cérémonie du mariage dans la maison qu'occupait ma mère. J'avais 4 ans lorsque je perdis mon père à Paris. Il mourut subitement, sans avoir fait régulariser son mariage et sans avoir songé à y suppléer par des dispositions testamentaires. Ma mère n'avait que peu de ressources pour vivre et nous élever, mon jeune frère et moi. Elle se retira à la campagne, où je vécus jusqu'à l'âge de 15 ans. Mon frère étant mort, nous revînmes à Paris, où ma mère m'obligea d'épouser un homme que je ne pouvais ni aimer ni estimer. À cette union, je dois tous les maux. Mais, comme depuis, ma mère n'a cessé de m'en montrer le plus vif chagrin, je lui ai pardonné, et dans le cours de cette narration, je m'abstiendrai de parler d'elle. J'avais 20 ans lorsque je me séparai de cet homme. Il y en avait 6, en 1833, que durait cette séparation, et 4 seulement que j'étais entré en correspondance avec ma famille du Pérou. J'appris, pendant ces 6 années d'isolement, tout ce qu'est condamné à souffrir la femme séparée de son mari au milieu d'une société qui, par la plus absurde des contradictions, a conservé de vieux préjugés contre les femmes placées dans cette position après avoir aboli le divorce et rendu presque impossible la séparation de corps. L'incompatibilité et 1000 autres motifs graves que la loi n'admet pas rendent nécessaire la séparation des époux. Mais la perversité, ne supposant pas à la femme des motifs qu'elle puisse avouer, la poursuit de ses infâmes calomnies. Excepté un petit nombre d'amis, personne ne l'en croit sur son dire, et, mise en dehors de tout par la malveillance, elle n'est plus, dans cette société qui se vante de sa civilisation, qu'une malheureuse paria à laquelle on croit faire grâce lorsqu'on ne lui fait pas d'injure. En me séparant de mon mari, j'avais abandonné son nom et repris celui de mon père. Bien accueillie partout comme veuve ou comme demoiselle, j'étais toujours repoussée lorsque la vérité venait à se découvrir. Jeune, jolie et paraissant jouir du nombre d'indépendances, c'était des causes suffisantes pour envenimer les propos et me faire exclure d'une société qui gémit sous le poids des fers qu'elle s'est forgés et ne pardonne à aucun de ses membres de chercher à s'en affranchir. La présence de mes enfants m'empêchait de me faire passer pour demoiselle et presque toujours je me suis présenté comme veuve. Mais demeurant dans la même ville que mon mari et mes anciennes connaissances, il m'était bien difficile de soutenir un rôle dont une foule de circonstances pouvait me faire sortir. Ce rôle me mettait fréquemment dans de fausses positions, jetait sur ma personne un voile d'ambiguïté et m'attirait sans cesse les plus graves désagréments. Ma vie était un supplice de tous les instants. Sensible et fier à l'excès, j'étais continuellement froissé dans mes sentiments, blessé et irrité dans la dignité de mon père. Si ce n'eût été l'amour que je portais à mes enfants, à ma fille surtout, dont le sort à venir comme femme excitait trop vivement ma sollicitude pour ne pas rester auprès d'elle, afin de la protéger et de la secourir. Sans ce devoir sacré dont mon cœur était profondément pénétré, que Dieu me le pardonne et que ceux qui régissent notre pays frémissent, je me serais tué. Je vois à cet aveu le sourire d'indifférence de l'égoïsme qui ne sent pas dans son ineptie la corrélation n'existant entre tous les individus d'une même agrégation. Comme si la santé du corps social, dont plusieurs membres sont portés au suicide par le désespoir, n'offrait aucun sujet d'appréhension. J'avais écrit en 1829 à ma famille du Pérou, dans le dessein à demi formé d'aller me réfugier auprès d'elle. Et la réponse que j'en reçus m'aurait engagé à réaliser immédiatement ce projet si je n'en avais été empêché par la réflexion désespérante qu'eux aussi allaient repousser une esclave fugitive parce que, quelque méprisable que fût l'être dont elle portait le joug, son devoir était de mourir à la peine plutôt que de briser des fers rivés par la loi. Les persécutions de mon mari m'avaient à plusieurs reprises contrainte de fuir Paris. Lorsque mon fils eut atteint sa 8e année, il insista pour la voir et m'offrit le repos à cette condition. Las d'une lutte aussi prolongée et n'y pouvant plus tenir, je consentis à lui remettre mon fils en versant des larmes sur l'avenir de cet enfant. Mais quelques mois s'étaient à peine écoulés depuis cet arrangement que cet homme recommença à me tourmenter et voulut aussi m'enlever ma fille parce qu'il s'était aperçu que j'étais heureuse de la voir auprès de moi. Dans cette circonstance, je fus encore obligé de m'éloigner de Paris. Ce fut pour la 6e fois que, pour me soustraire à des poursuites incessantes, je quittai la seule ville au monde qui m'ait jamais plu. Pendant plus de 6 mois, caché sous un nom supposé, je fus errante avec ma pauvre petite fille. À cette époque, la duchesse de Berry parcourait la Vendée. 3 fois on m'arrêta. Mes yeux et mes longs cheveux noirs, qui ne pouvaient être dans le signalement de la duchesse, me servirent de passeport et me sauvèrent de toute méprise. La douleur, jointe aux fatigues, épuisa mes forces. Arrivé à Angoulême, je tombai dangereusement malade. Dieu me fit rencontrer dans cette ville un ange de vertu qui me donna la possibilité d'exécuter le projet que depuis 2 ans je méditais et que m'empêchait de réaliser mon affection pour ma fille. On m'avait indiqué la pension de Mademoiselle de Boursac comme la meilleure pour y placer mon enfant. Au premier abord, cette excellente personne lut dans la tristesse de mes regards l'intensité de mes douleurs. Elle prit ma fille sans me faire une question et me dit « Vous pouvez partir sans nulle inquiétude. Pendant votre absence, je lui servirai de mère, et si le malheur voulait qu'elle ne vous revît jamais, elle resterait avec nous. » Lorsque j'eus acquis la certitude d'être remplacé auprès de ma fille, je résolus d'aller au Pérou prendre refuge au sein de ma famille paternelle dans l'espoir de trouver là une position qui me fit rentrer dans la société. Vers la fin de janvier 1833, je me rendis à Bordeaux et me présenter chez M. de Goyeneche, avec lequel j'étais en correspondance. M. de Goyeneche, Mariano, est cousin de mon père. Nés tous deux à Arequipa, une amitié d'enfance les avait liés d'une manière intime. À ma vue, M. de Goyeneche fut frappé de l'extrême ressemblance de mes traits avec ceux de mon père. Il lui rappelait son ancien ami, et à ce souvenir se rattachaient pour lui ceux de sa jeunesse, de sa famille, enfin de son pays qu'il regrette sans cesse. Il reporta aussitôt sur moi une partie de l'affection qu'il avait eue pour son cousin, et ce vieillard, dont les manières sont nobles, me reçut avec des égards qui montraient combien il me distinguait. Il me présenta à toute sa société comme sa nièce, et me combla de témoignages de bienveillance. Je reçus de même un très bon accueil de M. Bertera, Philippe, jeune Espagnol qui vit chez M. de Goyeneche et fait les affaires de mon oncle Pio de Tristan. J'annonçai à ces messieurs la détermination que j'avais prise de partir pour le Pérou. Je restai 2 mois et demi à Bordeaux, prenant mes repas chez mon parent et logeant à côté chez une dame qui me louait un appartement garni. j'éprouvais des lenteurs avant de pouvoir partir, et un concours de circonstances fortuites vint encore compliquer ma position. En 1829, j'avais rencontré à Paris, dans un hôtel garni où j'étais descendu en arrivant de voyage, un capitaine de navire qui venait de Lima. Surpris de la similitude de mon nom avec celui de la famille Tristan qu'il avait connue au Pérou, ce capitaine me demanda si j'en étais parente. Je répondis que non, comme j'avais l'habitude de le faire. J'avais depuis 10 ans renié cette famille, par des causes que plus tard je ferai connaître, et ce fut au hasard de cette rencontre que je dus d'entrer en correspondance avec mes parents du Pérou, de faire mon voyage et tout ce qui s'ensuivit. Après une longue conversation avec M. Chabrier, c'est le nom de ce capitaine, j'écrivis à mon oncle Pio une lettre qui est là pour attester de la noblesse de mes sentiments et de la loyauté de mon caractère, mais qui me perdit en lui révélant l'irrégularité du mariage de mon père. Je passais pour veuve dans l'hôtel et j'avais ma fille avec moi. Ce fut dans cette position que le capitaine Chabrier m'avait connu. Il partit, moi-même je quittai cette maison peu après l'y avoir rencontré, et depuis lors, je n'en avais plus entendu parler. Il n'y avait à Bordeaux, en février 1833, que 3 navires en partance pour Valparaiso. Le Charles-Adolphe, dont la chambre ne me convenait pas. Le Flétès, auquel je dus renoncer parce que le capitaine ne voulut pas prendre en paiement de mon passage une traite sur mon oncle. Et le Mexicain, joli brick neuf que tout le monde me vantait. Je m'étais présenté comme demoiselle à M. de Goyeneche et à toute sa société. On peut donc imaginer l'effet étourdissant que produisit sur moi le nom du capitaine du Mexicain lorsque mon parent me dit qu'il se nommait Chabrier. C'était le même capitaine qu'en 1829, j'avais rencontré à Paris dans un hôtel garni. Je fis tout ce que je pus afin d'éviter de partir sur le Mexicain. Mais, craignant que ma conduite ne fût trouvée extraordinaire dans la maison de mon parent, où M. Chabrier était fortement recommandé par le capitaine Roux, depuis longtemps en relation d'affaires avec ma famille, je n'osais me refuser à aller visiter le navire. Je passai 2 jours et 2 nuits dans une perplexité dont je ne savais comment sortir. Je n'avais vu M. Chabrier que 2 ou 3 fois en dînant avec lui à la table d'hôte. Il ne m'avait parlé que du Pérou, et, en l'écoutant, je ne songeais qu'à une famille dont l'abandon m'avait causé de si cuisants chagrins, sans m'occuper le moins du monde de l'homme qui, à son insu, me parlait de mes intérêts les plus chers. Je l'avais entièrement oublié, et je faisais maintenant de pénibles efforts pour me rappeler à quel homme j'allais avoir affaire. J'étais tourmenté par les plus vives inquiétudes. Je craignais de manquer mon voyage en le différant, et ce que je ne cessais d'entendre sur le compte des capitaines de navires n'était guère de nature à me rassurer sur le degré de confiance que je devais accorder au capitaine du Mexicain. Je ne pouvais résister davantage aux instances de mon parent que pressait M. Chabrier pour connaître ma détermination afin de pouvoir disposer, si je ne partais pas sur son navire, de la cabane qu'il m'y destinait. Quand je me suis trouvé dans des positions embarrassantes, je n'ai jamais pris conseil que de mon cœur. J'envoyai chercher M. Chabrier qui, aussitôt qu'il entra, me reconnut et fut surpris. J'étais ému. Dès que nous fûmes seuls, je lui tendis la main. « Monsieur, lui dis-je, je ne vous connais pas, cependant je vais vous confier un secret très important pour moi. » et vous demander un éminent service. « Quelle que soit la nature de ce secret, me répondit-il, je vous donne ma parole, mademoiselle, que votre confiance ne sera pas mal placée. Quant au service que vous attendez de moi, je vous promets de vous le rendre, à moins que la chose ne soit tout à fait impossible. » Oh, merci, merci, lui dis-je en lui serrant la main fortement. Dieu vous récompensera du bien que vous me faites. L'expression et l'accent de vérité de M. Chabrier m'avaient de suite convaincu que je pouvais me reposer sur lui. Ce que je vous demande, continuai-je, c'est tout simplement d'oublier que vous m'avez connu à Paris sous le nom de dame et avec ma fille. Je vous en expliquerai la raison d'abord. Dans 2 heures, je vais aller visiter votre navire. Je choisirai ma cabane, M. Berterat en réglera le prix avec vous et, jusqu'au départ, ne parlez de moi que comme si vous m'aviez vu aujourd'hui pour la première fois. M. Chabrier me comprit et me serra la main avec cordialité. Nous étions déjà amis. « Du courage, me dit-il, je vais presser notre départ. Je conçois, dans votre position, tout ce que vous devez souffrir. Je peux le dire, cette première visite de M. Chabrier est un des plus heureux souvenirs qui me soit resté dans le cœur. Pendant les 2 mois et demi que je séjournais à Bordeaux, je fus péniblement affecté par les plus inquiétantes appréhensions. J'avais habité cette ville à 2 reprises différentes avec ma fille, avant que je n'eusse pensé à ma famille du Pérou, et j'y avais connu beaucoup de monde, en sorte que, chaque fois que je sortais, je me sentais exposé à rencontrer une de ces anciennes connaissances venant me demander des nouvelles de ma fille, à moi, demoiselle Flora Tristan. J'étais dans une anxiété continuelle. Aussi, avec quelle impatience attendais-je le jour où nous devions mettre à la voile. Il me tardait de sortir de la maison de M. de Goyeneche. Cependant, on m'y traitait avec la plus grande distinction et surtout avec des marques d'affection qui m'eussent rendu bien heureuse si j'avais été dans une position vraie. Mais j'avais trop de fierté pour me complaire dans des égards prodigués à un titre qui n'était pas le mien. Et mon cœur, abreuvé de longues souffrances, ne pouvait être accessible au prestige du monde et de son luxe. Cette société, organisée pour la douleur, où l'amour est un instrument de torture, n'avait pour moi aucun attrait. Ces plaisirs ne me faisaient aucune illusion. J'en voyais le vide et la réalité du bonheur qu'on leur avait sacrifié. Mon existence avait été brisée et je n'aspirais plus qu'à une vie tranquille. Le repos était le rêve constant de mon imagination, l'objet de tous mes désirs. Je ne me résolvais qu'à regret à mon voyage au Pérou. Je sentais, comme par instinct, qu'il allait attirer de nouveaux malheurs sur ma tête. Quitter mon pays que j'aimais de prédilection, quitter ma fille qui n'avait que moi pour appui, exposer ma vie qui m'était à charge, parce que je souffrais, parce que je n'en pouvais jouir que furtivement, mais qui m'eût apparu belle et radieuse si j'avais été libre. Enfin, faire tous ces sacrifices, affronter tous ces dangers, parce que j'étais lié à un être vil qui me réclamait comme son esclave. Oh, ces réflexions faisaient bondir mon cœur d'indignation. Je maudissais cette organisation sociale qui, en opposition avec la Providence, substitue la chaîne du forçat au lien d'amour et divise la société en serves et en maîtres. À ces mouvements de désespoir succédait le sentiment de ma faiblesse. Des larmes ruisselaient de mes yeux, je tombais à genoux et j'implorais Dieu avec ferveur pour qu'il m'aidât à supporter l'oppression. C'était pendant le silence de la nuit qu'assiégé par ces réflexions, l'irritant tableau de mes malheurs passés se déroulait dans ma pensée. Le sommeil me fuyait, ou durant de courts instants seulement, il adoucissait mes peines. Je m'épuisais en 20 projets. Je cherchais à pénétrer le caractère de mon parent, M. de Goyeneche. « Il est religieux, me disais-je, à ne pas manquer un seul jour d'aller à la messe, ponctuel dans l'accomplissement de tous les devoirs que la religion impose. Dieu, qu'il fait constamment intervenir dans ses propos, doit être dans ses pensées. Il est riche, et mon parent d'aussi près pourrait-il se refuser à nous prendre, moi et ma fille, sous sa protection ? Oh non, pensais-je, il ne saurait me repousser, il est sans enfant, je suis celle que Dieu lui envoie. Aujourd'hui, ce matin même, je lui confierai tous mes chagrins, lui raconterai le martyre de ma vie et le supplierai de nous garder chez lui, ma pauvre petite fille et moi. Serait-ce, hélas, une charge que nous lui imposerions à lui, vieux garçon, sans famille, regorgeant de tout, habitant seul une immense maison où son ombre se perd et où nos voix amies feraient sans cesse retentir des accents de reconnaissance. Mais le matin, lorsque j'arrivais chez le vieillard, le cœur palpitant d'émotion, dès les premiers mots qu'il m'adressait, j'étais frappé de l'expression sèche et égoïste du vieux garçon, de l'homme riche et avare qui ne pense qu'à lui, se fait le centre de toutes choses, amassant toujours pour un avenir qu'il n'atteindra pas. Cette expression de sécheresse me glaçait. Je restais muette, recommandais ma fille à Dieu et désirais ardemment en être loin en mer. Je ne fis donc jamais cette tentative, et il est certain, malgré la dévotion de mon parent, qu'elle eût été sans succès. J'en ai eu la preuve depuis mon retour. Le catholicisme de Rome nous laisse avec tous nos penchants et donne à celui de l'égoïsme la plus grande intensité. Il nous détache du monde, mais c'est afin de concentrer toutes nos affections sur l'Église. On y fait profession d'aimer Dieu. Et c'est par l'observation des pratiques religieuses imposées par l'Église qu'on croit lui prouver son amour. Loin de se croire obligé à secourir ses parents, ses alliés, ses amis, le prochain enfin, on trouve presque toujours des motifs religieux pris dans la conduite de celui qui réclame des secours pour les lui refuser. C'est par des largesses à l'Église, c'est en lui confiant quelques aumônes, qu'on s'imagine assez généralement satisfaire à la charité prêchée par Jésus-Christ. M. Bertera, bien qu'espagnol et bon catholique, était venu trop jeune en France, où il avait été élevé pour être imbu des mêmes préjugés religieux que M. de Goyeneche. Cependant, je ne le mis pas dans ma confidence. Je lui portais une amitié désintéressée et ne voulus pas le commettre dans le mensonge que je faisais à ma famille. Ce jeune homme, depuis que je le connaissais, n'avait cessé de me prodiguer des témoignages d'affection. Je croyais à la sincérité de l'attachement qu'il me manifestait et je me plaisais à lui montrer ma reconnaissance. Le plaisir que je ressentais à le faire fut un adoucissement aux nombreuses tribulations qui m'assaillirent pendant mon séjour à Bordeaux. Jusqu'alors, la plupart des personnes avec lesquelles les circonstances m'avaient mis en rapport ne m'avaient fait que du mal, tandis que M. Bertera éprouvait de la satisfaction d'un maître utile. Il me confia ses douloureux regrets et ses ennuis. Il avait vu mourir de la même maladie toute sa famille à laquelle il était tendrement attaché. Resté seul, il vivait dans l'isolement, au milieu du monde et de son froid égoïsme. La douleur compatit à la douleur, quelque diverses qu'en soient les causes. Dès la première conversation, il s'établit entre nos âmes une intimité mélancolique qui, pieuse dans ses aspirations, ne touchait à la terre par aucun point. J'aimais ce jeune homme de cette sympathie tendre et affectueuse que, dans le malheur, les êtres sensibles ressentent les uns pour les autres. Sa société était à mon âme un doux parfum. Auprès de lui, je respirais plus librement et l'affreux cauchemar qui continuellement m'oppressait pesait moins lourdement sur ma poitrine. J'aimais à sortir avec lui et presque tous les soirs, nous allions faire de longues promenades pendant que mon vieux parent faisait la sieste. De son côté, M. Bertera recherchait avec empressement toutes les occasions de m'être agréable. Son affection pour moi se montrait dans les plus petites choses. Je n'ai de ma vie balancé un instant à sacrifier une jouissance personnelle au plaisir plus vif pour moi de contribuer à rendre heureux ou à garantir de peine ceux que j'aimais réellement. La sincérité de l'affection que me portait M. Berterat me donna la conviction qu'il aurait ressenti ma douleur si je lui avais confié le secret de ma cruelle position. Et l'impossibilité de la changer eût encore augmenté sa peine. Ensuite, la fausse position dans laquelle me mettait le mensonge que m'imposaient les préjugés de la société m'était trop pénible pour consentir à faire supporter à un homme que j'aimais et auquel j'avais tant d'obligations une portion quelconque des conséquences que pouvait avoir ce mensonge. Je retins mon secret. J'eus le courage de me taire quand j'étais sûr de rencontrer dans le cœur de ce jeune homme une vive sympathie pour mes malheurs. Je fis ce sacrifice à l'amitié que je lui avais jurée et, de Dieu seul, j'en attends la récompense. Je partis, recommandant ma fille à Mademoiselle de Boursac et au seul ami que j'eusse. Tous deux me promirent de l'aimer comme leur enfant et j'emportai la douce et pure satisfaction de ne laisser aucun pénible souvenir après moi.